Commencer. Regardez, est-ce que vous avez devant vous le Gvorot
Oui,
Hashem? Oui, vous
oui,
avez.
oui.
Donc, Meir a envoyé des photocopies.
Ah, c'est quel daf? C'est quelle page?
Alors, c'est dans l'édition classique Enig, c'est page Reshutet, Amoud Reshutet.
Perek Ramishim Vechad.
Voilà. Je vous demande une seconde, encore je viens tout de suite, une seconde. De la page Reshutet en bas à gauche. Donc, la thèse du Maharal que nous avions commencé à voir la semaine dernière, c'est qu'il s'oppose à Avraham Hanel. Avraham Hanel disait que la matzah s'appelle l'Echemoni, en cela qu'elle fait référence au pain de misère que mangeaient nos pères en Égypte. En vérité, ça rend bien compte du texte de l'Agada. Voilà le pain de misère que mangeaient nos pères en terre d'Égypte. Donc, il explique que dans Isaac Avraham Hanel, c'est le pain qu'il donnait aux esclaves parce que c'est un pain indigeste. Et comme on leur donne très peu à manger pour que leur ventre ait du grain à moudre, leur donne quelque chose d'indigeste. Mais le Maharal s'oppose à ça. Il dit que non, que le pain pauvre représente la Géoula. Et c'est ce qu'il va encore expliquer là, dans le. Oui, parce que la Géoula est le fait de ne pas être dépendant d'autrui, mais d'être autonome. Or, quelque part, alors, quelque part, le pauvre n'est dépendant de rien, il ne se définit que par lui-même. Alors, ici, ce n'est pas une apologie du tout à la pauvreté, mais pour sortir à la liberté, il faut un moment être comme un pauvre. Donc, c'est pas le pain pauvre n'est pas l'expression de la liberté, de la sortie à la liberté. Voilà. C'est la Géoula est le moment où on sort à la liberté. Pour ça, il faut, si on pourrait s'exprimer ainsi, larguer les amarres, être capable un moment de larguer les amarres. Et c'est ce qu'on perçoit de manière impressionnante dans notre période, qu'on largue les amarres. C'est très, très impressionnant. Très impressionnant. OK, donc on ressent cette impression de presque de Géoula actuellement. Boteda er amatsa chez les Chémoni. Donc c'est le paragraphe en bas à gauche de Reshutet. Boteda er amatsa chez les Chémoni shayar ala Géoula. De plus, il faut que tu saches combien le pain pauvre est lié à la libération. Mais zé qui est ani chez l'autre d'avar, le pauvre n'a rien. Mais zé nyan pshitut. C'est la simplicité, kasher ou omed batzmo, en cela qui tient par lui-même, d'avancer. Im sheun chisaron nirshab olamazé. Bien que ça soit considéré dans ce monde-ci comme un manque, sholam arkava, ce monde-ci est la dimension de la complexité et la définition de ce monde est la complexité. Donc le pauvre qui n'est pas dans la complexité est considéré inadapté à ce monde complexe. Mikol makom apshitud mala ou metzad olam apashut ven bor kava. Néanmoins, la simplicité est une qualité. Alors une seconde, que les choses soient claires, les amis. Que c'est une étude commune. Hein, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Hein. Si ce qui est important, c'est que on puisse travailler ensemble. Bon, pour le moment, ça, on a vu ça la semaine dernière, donc je reprends. Mais s'il y a des trucs qui coincent, il faut s'exprimer. Hein.
Moi, simplement, je ne vois pas où est-ce qu'on en est là, dans la photocopie qu'il a envoyée, mais hier, qui n'a apparemment
Ah,
pas l'édition
ça,
manuelle.
c'est sympa.
Bonne question.
Ah, ça, c'est une bonne question.
Quelqu'un sait où on en est dans la photocopie?
Qui c'est qui dit ça?
C'est Jonathan.
Regarde, Jonathan, je pense que Meir a envoyé les photocopies de l'édition Enig. C'est la page Rescue Tet.
Non, c'est pas, la page, c'est 73 ici. Hein.
Ah, ah bon. Alors, tu, je regarde.
Il y a quelqu'un qui sait où est-ce qu'on est dans la page de Meir?
Je regarde ce qu'il a envoyé. Une seconde.
Malheureusement, je crois que ce n'est pas la bonne page.
Ah.
Ah oui, ça, c'est.
Ouais, c'est la page.
Effectivement, c'est une bonne intervention.
Je vous cassez pas la tête, j'envoie. J'envoie sur vous. Ah, je peux pas, là, je peux pas plus.
Sinon, c'est, je vais me permettre, vous savez qu'il y a aussi des. Il y a Sepharia qui existe, qui est en ligne. Vous avez tout accès, vous pouvez accéder. Ça s'appelle Sepharia, vous faites Gevurot Hashem.
Attention, ça va marcher, mon ami, ça va marcher. Une seconde. Bon. Non, c'est pas la même édition, oui.
C'est ça comme ça.
Oui, c'est bon. Monsieur Jonathan.
Oui.
C'est la page où ça commence. Le Ficard Siva les Rolérémoni. C'est la deuxième feuille qu'il a envoyée.
Ok, ouais, je vois.
Voilà la deuxième feuille qui commence par le Ficard Siva les Rol.
Oui.
Alors, cette colonne, dans cette colonne de droite,
oui.
Tu descends une vingtaine de lignes. Voteda er amatsa chez les Chémoni, Shayar et la Geoula.
C'est quoi, c'est après un point?
Ouais. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 avant la fin de la page. C'est bon?
C'est bon, merci beaucoup.
On écoute. Voteda er amatsa shelechemoni shayar elaigula. C'est l'édition avant l'édition unique. Ouais, c'est l'édition qui sont. Parce que Hebrew Books, je pense que Meir a envoyé ça à partir d'Hebrew Books. Hebrew Books, en vérité, la Hebrew Books publie. Des éditions anciennes. C'est ça la vocation première. Ok, c'est bon. Alors, je reprends. Oteda, er hamatsa shelechem onishar alegula. Il faut que tu saches combien la matza, qui est le pain pauvre, est liée à la délivrance. Veze ki ani shelo davar. Le pauvre n'a rien. Veze nyan pshitut. Ça, c'est la simplicité. Kacher ou Omed Beatzmo, parce qu'il tient par lui-même. Mais d'avarze, imshéo chisaron, irshab olamazé, sholamar kava, malato bar kava. Bien que le fait de n'avoir que soi-même est un manque dans ce monde-ci, c'est considéré comme un handicap dans ce monde-ci, qui le manque de la complexité et sa définition, donc sa grandeur est là, ça veut dire l'adaptation au ce monde-ci et la complexité. Nicole Macom, néanmoins, la simplicité, ma'ala ou metzadola ma pachoud ben bo arkava. Néanmoins, la simplicité est une qualité par rapport à un monde simple dans lequel il n'y a pas cette complexité. Balayla azé. Ayutzririm et la Geoula. Dans cette nuit-là, était nécessaire la libération. Mais lo aïta Geoula metzad aolam azé shulam amorkav, ram metzad olam aelion apashut. Et la délivrance ne vient pas de ce monde-ci, qui est d'un monde complexe. Rien, si vous voulez, c'est l'émission d'un monde supérieur à l'intérieur d'un monde complexe. Ça, me semble-t-il, il fait allusion à ce qu'on dit En chavush matir atzmo bebet asurim. Ce qu'on voit dans la Gemara, dans Masechet Brachot au début, qu'un prisonnier ne se sort pas seul de sa prison. C'est-à-dire, quand on est à l'intérieur du monde complexe, on ne peut pas s'en sortir. Il faut une intervention d'une autre dimension.
Et comme d'habitude dans le Maharal, clairement ici, il y a un sous-jacent kabbalistique, n'est-ce pas ?
Que dis-tu ?
Comme d'habitude dans le Maharal, ici, il y a un sous-jacent kabbalistique, n'est-ce pas ?
Sauf ton respect, tu as dit quoi en disant ça ?
En fait, rien, mais
c'est
juste pour dire une connerie comme ça.
Non, grâce au shalom, ça, je n'ai pas dit.
Ça, c'est un sketch qui dit ça.
Non, je n'ai pas dit ça. Mais non, je demande ingénument, qu'est-ce que tu rajoutes en disant ça ?
Non, pas rajouter, mais disons que cette idée comme ça d'un monde qui est non complexe et qui vient exprimer une volonté dans un monde complexe, c'est comme s'il disait qu'il y avait une sorte de projet qui s'impose à l'humanité, qui n'est pas un projet contingent, quoi. Donc, il me semble que cette manière de dire, c'est une manière de dire un peu à la manière de mettre de la Kabbalah.
Je vois, ce que tu dis, je ne l'entends pas du tout dans le Maharal.
Ah, c'est marrant.
Regarde, je prends un exemple. Un monde complexe. On peut deviser éternellement sur la question suivante. Je pense que on ressent ça. Tous les plans, tous les projets de tout le monde se cassent la figure en ce moment. On a des projets. Nous, nos projets sont des projets relativement limités. Mais prenons un exemple. Je ne sais pas, moi, j'ai parlé avec... ma famille là, prenons par exemple ceux dont toute la parnassa de l'année c'est les Pessahs organisés. Ils ont investi, ils ont commandé des tonnes de matzot, des tonnes de viande, ils ont commandé un village de vacances, je ne sais pas, en Crète, etc., qui va faire vivre 3000 autochtones. Et tout ça, il y a des bateaux, il y a des activités, tout ça, résultat zéro pointé. C'est hallucinant. Et encore, ça c'est limité. Il y a des usines, c'est invraisemblable. Tout ça, zéro pointé. Alors, mardi dernier, j'avais posé la question au cours. Est-ce que quelqu'un comme Macron ou Edouard Philippe, ils vont dire, ok, on est modim, on reconnaît qu'il y a un créateur, une volonté supérieure, et qu'on doit s'interroger sur nos actes et accepter une volonté supérieure à la nôtre. Pourquoi ils ne disent pas ça ? Mais pourquoi ? Parce que s'ils le disent d'un point de vue politique, ils vont pas le dire parce que ça va créer des problèmes d'image. Ça remet en question tout l'héritage des Lumières depuis. Voltaire, Rousseau, l'héritage de la Révolution française. Ça veut dire on ne peut rien bouger parce qu'on est dans un monde figé. C'est ça, le monde. Olam Hazeh est un monde murkav. Je ne peux rien bouger parce que tout est embriqué dans un engrenage qui est dans un autre engrenage, qui est encore dans un autre engrenage. Encore dans un autre engrenage. On ne peut rien bouger. La Géoula et le s'immisce l'émission d'une dimension simple, c'est-à-dire de la capacité à ne pas être lié à tous ces engrenages. Ça, c'est simple. Ça veut dire, si tu es le moi en tant que, en tant qu'homme de gauche, je me dois de, mais tu n'es pas un homme de gauche, tu existes. Être homme de gauche, c'est-à-dire que tu es dépendant de quelque chose. Ou alors, en tant que juif orthodoxe, je me dois de. Être un juif orthodoxe, c'est une complexité qui va faire qu'à un moment, je ne peux pas vivre, je ne peux pas me définir par moi-même. Parce que je suis un juif orthodoxe, ou je suis un homme de gauche, ou je suis un humaniste, ou je suis un fasciste, ou je suis... Voilà, on se définit. Donc là, à un moment, il faut l'émission de quelque chose qui est d'un autre ordre que ça. Alors, ça c'est, me semble-t-il... Le Fikar Tziva l'Echol Matzah, c'est pour ça qu'il ordonnait de manger la Matzah, l'Echem Oni, un pain pauvre, Shu l'Echem Apashut, qui est un pain simple, Share Enbo Davar Raketsem Pashut, il y a seulement un corps simple, qui l'Echon Matzah, Bal Davar Shu Pashut. Matzah, c'est comment dire, quelque chose de non travaillé. La chose matzah, bal davar ou pashut. Oui, la semaine dernière, il y avait quelqu'un m'avait demandé, c'est quoi la racine du mot matzah? Alors, le Maharal en donne sa définition. Kemo shenikra a or shu pashut de lo maliar velo kamilar velo afitz veor pashut beshem matzah. On va dans la Gemara. La peau d'animal qui n'a encore pas été tannée, ça s'appelle la peau matzah, elle n'a pas été travaillée. L'eau maliar, ils n'ont pas mis des sels, ni de la farine, ni des corps, comment dire, corrosifs. Parce que pour tanner, il faut mettre quelque chose qui est corrosif, la fitz. Donc, c'est encore la peau telle qu'elle, ça s'appelle matzah. Omepne shebalaila aze ayuni galim bemadrega aliona. Étant donné que cette nuit-là, ils ont été libérés par un niveau supérieur de ce monde complexe, il a ordonné qu'on mange la matzah qui est simple. Des mayonze kohen gadol, et il y a un exemple, quelque chose qui ressemble à cela. Le kohen gadol me shamesh bechol yeme ashana bebigdezav. Le kohen gadol fait le service tous les jours de l'année avec les habits en or, les huit habits. Obeyom akipurim bebigdelavan lifne velifnim. Quand il rentre à l'intérieur de l'intérieur dans le saint des saints, c'est un vêtement blanc. Zehu bishvil shukone madriga eliona. Parce qu'à ce moment-là, il acquiert un niveau supérieur. Share aya nichnas lifne venifnim. Il rentre lifne venifnim à l'intérieur de l'intérieur. Yeshlo le salek madrigot olamazé. Donc, il doit retirer des niveaux spécifiques de ce monde-ci chez Madrigato et nos Pashut. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, ça, ici, c'est extrêmement intéressant parce que Yom Kippour, c'est l'aboutissement de la Teshuvah. Mais aussi, comment on peut faire Teshuvah? Comment on peut faire Teshuvah? La Teshuvah vient aussi d'un monde supérieur. Alors, quelqu'un, il a fait des forfaits. On est défini par ce qu'on fait. Quelqu'un, il a fait des choses. Mais il dit, mais si je change quelque chose, je ne sais pas où je vais. Si je change, même, je préfère à la limite continuer mes bêtises. Parce que si je change, ça voudrait dire que je renie ce que j'ai fait avant. Je perds la face, finalement, que je reconnaisse mes fautes. Je perds la face. Donc, je préfère continuer à fauter, comme ça, je ne perds pas la face. Ah, je faute, mais je ne perds pas la face. C'est-à-dire, j'ai des intérêts à défendre. Or, à un moment, la teshuva vient d'un monde supérieur, où on n'est pas dans la représentation, dans la définition. On est une autre dimension. C'est la dimension, ce qu'il appelle, de la simplicité.
Il y a un truc qui n'est pas clair dans ce qu'il dit.
Enfin, la simplicité, ça veut dire moi, en tant que rabbin, je me dois de... Mais ça, chacun, on est en tant que je sais pas, moi j'ai été élevé, mon père c'était un médecin, tout le temps on l'appelait jamais monsieur Intel, monsieur Zizek, on l'appelait monsieur le docteur Zizek, partout monsieur le docteur Zizek, c'était jamais monsieur Zizek, c'était toujours monsieur le docteur, c'est on est quelqu'un. Et voilà. En tant que, voilà, on a tout le temps quelque chose, une insertion dans le monde. Mais alors, si c'est ça, comment on peut changer? Mais disons qu'on a pris un mauvais chemin, comment on va changer? On ne peut pas. Donc, Yom Kippour, s'il y a une teshuvah, il faut se définir par quelque chose qui n'est pas que de ce monde-ci. À l'intérieur de ce monde-ci, mais qui est l'émission d'une autre dimension. Oui, tu veux dire, David ?
Juste, dans ces mots, je n'arrive pas trop à comprendre si le fait de se revêtir de vêtements blancs, c'est juste une siba ou un siman. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait ça pour accéder à un niveau, ou c'est le fait qu'il accède à un niveau, il veut le pousser à revêtir ses vêtements ? Et si on transpose à la matzah, c'est ça. Est-ce que la matzah, elle va nous...
Non, regarde, par exemple, prenons un exemple. Quand Goliath, il provoquait les enfants d'Israël, alors il y a le petit David, il arrive, il convainc le roi Shaoul de le laisser affronter Goliath. Alors Shaoul, il lui donne son manteau royal, son épée et tout ça. Et David, il essaye, il dit, non, ça va pas. Il enlève et il prend son t-shirt. Sa tunique, c'est écrit comme ça dans le verset. Si tu veux, tu as quelqu'un, il est en t-shirt dans ce monde-ci. Bon, c'est un petit jeune, ça veut dire un. Mais pour que là, il puisse y avoir un miracle, il faut quelque chose qui n'est pas, parce que Goliath, c'est un homme de guerre, en face de lui, il faut un autre homme de guerre. David, ce n'est pas un homme de guerre. Donc, comment ça va se passer? Il y a des hommes de guerre. Par exemple, pour que quelqu'un il puisse ouvrir la bouche dans ce monde-ci, il faut qu'il ait fait des études, il faut qu'il ait des diplômes. Il faut qu'il ait des diplômes, il faut qu'il ait fait une grande école, il faut il faut qu'il soit. C'est comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Voilà, c'est ça. Le monde fonctionne. Il fonctionne avec une arkava qui est adaptée à ce monde-ci. quelqu'un qui n'est pas un universitaire, il ne peut pas parler de connaissances parce qu'il n'a pas les diplômes. Ah, mais peut-être il s'y connaît. Mais monsieur, vous n'êtes pas adapté. Vous n'êtes pas adapté. On est dans un monde qui a des protocoles. Un monde qui a des protocoles. Mais si ce monde de protocoles, comment on peut faire tchouva? On ne peut pas. Parce que quelqu'un, il a fauté, je ne sais pas moi, il mange avec ses collègues au restaurant, il fait ses repas d'affaires dans les restaurants, machin, bidule. Maintenant, comment il se rend compte qu'il ne doit pas continuer? Mais ça voudrait dire ça voudrait qu'il remettrait en question sa manière de s'insérer dans le monde. Je ne peux pas, ça remet trop de choses en question. Je ne peux pas faire de choua, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de choua. Alors là, il dit que le Kohen Gadol qui va aider le Ham Israël à faire teshuva, il enlève son apparat. Il est Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, tu as le Kohen simple et tu as le Kohen Gadol. C'est-à-dire le Kohen Gadol, c'est... tu as le rabbin, tu as le grand rabbin. C'est le grand rabbin. C'est plus que le grand rabbin d'Israël, c'est le grand rabbin de tous les juifs. Alors, tu te rends compte? Tu le vois dans la rue, tout de suite, il a son habit, il a son truc. Et il faut qu'il ait. D'ailleurs, le Kohen Gadol, s'il fait le service, Mechoussar Bigadim, le service est nul et non avenu. Et il s'appelle Zar. Il est condamnable à mort du ciel. Un Kohen Gadol qui fait, c'est les corbanotes, pas avec des habits de Kohen Gadol, il s'appelle Zar. Hazar, Akarev Yumat, il est condamnable à mort. Il ne fait pas le service, son service est nul. Et quelqu'un qui n'est pas adapté à faire le service est condamnable à mort du ciel. Mais à Yom Kippour, il doit enlever ses habits-là. Enfin, pas tout le temps, hein. Certains services spécifiques, il doit enlever ses habits. Il doit avoir les habits du petit Cohen du coin, de M. Cohen de la Courneuve.
Pourtant, c'est Yohanan. Pourtant, oui, il peut.
On te reconnaît.
Pourtant, pour arriver à cette pshitout, il faut qu'il passe par tout un protocole. Parce que s'il y a bien un protocole dans la avoda du Kohen Gadol, c'est bien Yom Kippour. Où il y a un protocole qui est.
C'est vrai,
d'abord, il y a eu 7 ouais. jours de prisha d'abord. Oui. Je veux dire, c'est très complexe.
C'est complexe.
Pour le coup, la preuve, c'est qu'il y a quand même une masse.
C'est juste. Ok. Mais bon, David, ça va ou ça va pas?
Oui.
On y va. Kibig de lavan empshutim. Les habits blancs sont les habits simples. Le kar tziva balaize l'erol matzah, c'est pour ça. Il nous a ordonné cette nuit-là de manger la matzah. Shou lechemoni, pashut, mikol, le plus simple de tout. Ki balaize nigalou, car cette nuit-là, ils ont été sauvés de Madriga Eliona, un niveau supérieur. Et comme Madriga Eliona, yeshba pshitu, tout niveau supérieur, il y a la simplicité. Zéro piouche akatouf. C'est ça l'explication du verset. Shivat yamim tochal alav matzot lechemoni. 7 jours, tu mangeras. Une petite seconde, ça fait penser à un truc que j'ai vu ce Shabbat pour les érudits, quelques érudits qui sont parmi nous. Il y a Natir Yahri a sorti un truc sur la tzniout. Tu sais, David, c'est bon, hein?
Ouais. Bon. Je l'avais en anglais déjà.
Ok. Bon. Alors, j'ai un peu... Je me suis intéressé au grand-père donc, de l'auteur, qui était le Rav Yosef Eliaou Enkin, qui était aux États-Unis. Bon, j'ai un peu regardé dans votre Sacha Chokma, j'ai vu des choses très intéressantes. Et ils ont sorti les Shelot et Tshuvot du Rav Yosef Eliyahu Enkin, qui était un gadol ador aux États-Unis, un peu avant l'arrivée de Rav Moshe Feinstein. J'ai commandé les deux livres de Shelot et Tshuvot du Rav Enkin, que j'ai reçus cette semaine. Et dans l'introduction, il rapporte que quand il était jeune en Lituanie, un temps il a étudié en Chavruta avec le Chazon Ish. Et il rapporte la rencontre donc de ce Yosef Eliyahu Enkin avec le Chazon Ish. Et donc un moment, il est arrivé dans un petit shtetl là-bas. Donc, comme lui, ce Yosef Eliyahu, il venait d'une famille rabbinique. Quand il est arrivé dans ce shtetl, il est arrivé donc voir le rav de cette ville, cette petite bourgade. Et il y avait un avraire qui était là dans le salon du rav, qui était habillé comme n'importe qui. Il a demandé, bon, qui vous êtes, machin, en attendant de voir le rav. Il dit, oui, j'ai un magasin ici dans la ville. Et il voyait que ce jeune-là, il déambulait dans le salon du rav en attendant que le rav soit disponible. Il disait, il pensait qu'il réfléchissait à son business. Quoi. Il a dit, j'ai un magasin dans la ville. Donc, il pensait qu'il réfléchissait à son business. Et ensuite, donc il y a le Rav qui reçoit ce Yosef Eliyahu Enkin, qui lui dit, tu sais qui c'est le jeune là dans la salle? C'est celui qui a écrit le livre Chazon Ish, qui était déjà publié. Et il a dit, mais non, il m'a dit qu'il était commerçant. Il était commerçant. Alors c'est vrai, sa femme, elle avait un petit magasin. Mais bon, c'était donc tout ça pour dire que c'était ce que sûrement vous avez déjà entendu plusieurs fois, que le Chazon Ish, il n'était pas habillé en rave, quoi. Il était comme tout le monde, quoi. Et c'était plus qu'un gadol ador, c'est quelqu'un qui a révolutionné tout le peuple d'Israël quelque part. Donc c'est le Olam HaPashut, voilà. Maintenant c'est vrai que tu vois, on dirait qu'il n'existe pas dans ce monde-ci, voilà. Ça n'a pas d'existence dans ce monde-ci. C'est ce qu'il y a c'est ce qu'on dit dans le Kodesh HaKodashim. Les lourds, le Aaron ne prenait pas de place. Il n'a pas de place dans ce monde-ci. La tchouva, c'est quelque part ne pas avoir de place dans ce monde-ci. Ça ne veut pas dire qu'on vit tout le temps comme ça, mais il y a un moment, il faut être capable de ça. C'est ce que la Torah ne nous demande pas, d'être vœu de pauvreté. Jamais la Torah ne nous demande ça. Et même les matzot, elles coûtent cher. Mais elle ne nous demande pas de faire vœu de pauvreté. Mais à un moment, il faut être capable de se rendre pashut. Voilà. À un moment. C'est ce qu'il dit. Zéou pirou shakatouv, kiva tiamim torav alav matzol lechemoni, kibechipazon yatsamim mitzraim. C'est ça ce que dit l'explication du verset. 7 jours, tu mangeras des azimes, du pain pauvre, car précipitamment tu es sorti d'Égypte. Kima, shayu yotsi bechipazon bli emsherzman more sheyatsu bemadrega bemaela eliona. Le fait qu'ils sont sortis précipitamment, sans emsherzman, sans continuité de temps, exprime qui sont sortis dans un niveau et une qualité supérieure. Va pas al sheba misham nase blisman. Une action qui vient de ce monde supérieur se fait sans temps. D'ailleurs, je me permets que là, la Maka internationale que nous sommes en train de vivre, elle s'est faite subitement, en 3 semaines, toute l'humanité a été submergée, 3 semaines, 4 semaines. C'est impressionnant, c'est quelque chose qui n'est pas qui est pas normal. Parce que les choses prennent du temps. Dans ce monde-ci, ça prend du temps. Lo kemod varim ativiim. Pas comme les choses naturelles. Shekol peulatam be'em shersma. Dans l'ordre de la nature, ça prend du temps. Avalkan ayag ulatam shelo beteva. Leur délivrance n'était pas de l'ordre de la nature. Le kar ayab echipazon, c'est la précipitation. Sans temps, le cas Raoul chez Yorlou les Chémonies, c'est pour ça qu'il est légitime qu'il mange un pain pauvre, qui est le pain simple, sans complexité. Mais d'abord, Zéniber les Malab, Echrout, Aïncham, nous avons déjà expliqué longuement. Gamay le Kaman, va voir aussi plus loin, c'est le Matsazo, Timsaud, Varim, Brourim, Benyadze, tu verras d'autres choses claires sur ce sujet. Raya Broura Lazé, une preuve claire que le pain pauvre, mitzadasmo wa herut, est en tant que lui la définition de la liberté et de la délivrance. Share kodem ageula bodam isrim achlu balaila aze matzot kedirtiv. La preuve que avant la libération, quand ils étaient encore en Égypte, ils ont mangé cette nuit-là des azim. Comme dit le verset dans le chapitre Yudbet, Al matzot merurim yochlu ou sur des azimes et des herbes amères vous le mangerez. Chez miset ilmod teda kilechem etzad asmu raoul acherut. C'est-à-dire juste avant de sortir, ils ont mangé des azimes. Donc le fait de manger des azimes est la comment dire l'entrée dans la délivrance. Ratsa akadosh baruch hu b'oto laila sheyu osim dvarim liyot nimshachim ara arerut. Il a voulu Dieu que cette nuit-là, il fasse des choses liées à la liberté. Shaliado isku la geula, que par le biais de leurs actions, ils méritent à la délivrance. Kishlosha dvarim nemru b'aftarat Avram. Car 3 choses ont été dites dans la promesse d'Avram, c'est-à-dire dans Brit Ben Aftarim, donc au début de ce livre incroyable de Gvorot Hashem, chapitre après chapitre, le Maharal analyse le Brit Ben Aftarim. Le verset dit « Ki ger yezaracha vavadum v'inu otam arba meot shana » Mais gam et agoy asher yavodu dan anochi vachachiken yetsu bechush gadol. Car étranger sera ta descendance dans un autre pays, ils les asserviront, les feront souffrir 400 ans, et aussi le peuple qui les asserviront, je le jugerai. Après, ils sortiront avec des grandes richesses. Il y a 3 choses. Premièrement, Aïchad, Sheyoum Shabdim et Israël. Première chose, qu'ils asserviront Israël. Acheni, Akadosh Boru, Iftia Rotam, Ladun et Mitzrayim. Deuxième chose, il a promis qu'il jugera les Égyptiens. Troisième, Yot Israël, Yotzim et Mitzrayim, qu'ils sortent de l'Égypte. Le kar asu zecher bemaror à la shabud. Donc, ces 3 choses sont mentionnées. Les herbes amères, l'asservissement, bemaroru et trayem, ils ont rendu amère leur vie. Kenegem, gam et agoy asher yavud danochi zeu makot bechorot shugmar makot mitzrim remouza amaka bemilad dan anochi adalet mindan remes dam reshit amakot nun mindan unega shkola kenek kon amakot ולזה עשו זכר בלילה הזה פסח, שרלו כי שחיטה את הפסח, וכנתו בעצמו שרוק בחורי מצרים, ויפסח על בתי ישראל. Alors lui dit que le jugement de l'Égypte est en allusion dans le Corban Pessah. C'est-à-dire, Gam et Tagoy Asheria Vodou, le peuple que, qui les a serviront, je le jugerai. Le summum du jugement, c'est Makad Bechorot, qui scelle les plaies d'Égypte. Et en allusion à cette Maka, Dan Anochi, Dan, le Dalet, c'est Dam, c'est les prémices des Makot. Le Nun, c'est le mot Nega, qui correspond à toutes les Makot. C'est pour ça qu'ils ont fait en signe cette nuit-là le Pessah qu'ils ont mangé, car le Pessah, c'est Dieu qui a sauté sur les portes des enfants d'Israël quand il a frappé les Égyptiens, les premiers-nés. Vaïfsar al-Baté Israël, il a sauté sur la maison d'Israël. Donc c'est le jugement, de l'Égypte. Et Midrash, Rabbah, Parashat Bo. Mais Shachatou, Oto, Kolka, Aladat, Israël, vous allez l'égorger, toute l'assemblée. Kaal, Adat, Israël. Donc il y a trois, un Kaal, Adat, Israël, je ne sais pas comment traduire. L'assemblée, aidez-moi, là, Kaal, Adat, Israël. Traduisons bien.
Assemblée du témoignage.
Allô, Alwil ?
Non.
Kaal Adat Israël.
C'est la même chose. Hein.
Comment ?
Kaal Adat, c'est la même chose. C'est l'assemblée, la communauté.
Ah oui, assemblée, communauté, d'accord. Alors, Kaal, l'assemblée de la communauté d'Israël. Atem Shochatim et Tapsachim, donc le Midrash dit. Vous égorgez le Pessah et j'égorge les Bechorot. Sympa quand même, hein?
C'est un bon deal.
Non, c'est un grand message d'humanisme, comment dire, et d'espoir pour l'humanité. Là, on sent que ça veut dire, on sent que ça baigne dans la douceur de vivre là. Hein. Un peu raide, hein. Là, ce Midrash, il m'a laissé, comment dire, mal au cou. Encore une fois. Non, regardez, parce que parce que chaque année, on étudie des choses sur la sortie d'Égypte. Mais sans forcer le trait, on est dans une situation qui n'est pas très loin de celle-là. On sent quelque part une libération. Par exemple, il y a des gens qui font des mariages. Maintenant, je ne sais pas si on fait des mariages qui se font, mais se font des mariages à 10. Quelque part, c'est une libération. On était rentrés, nous, dans la communauté, avec des fêtes invraisemblables, des frais invraisemblables, un mode de vie, une complexité de vie. Là, aujourd'hui, normalement, le 29 mars, on devait faire la Seouda de Bar Mitzvah de notre petit Neria, là, notre grand Neria. Là, à midi, il devait y avoir la Seouda. Et bon, c'était une grande Seouda qu'on avait préparée.
Je ne serai pas à l'heure. Hein.
Une grande Seouda. Avec, on a demandé à quelqu'un qui joue de la musique. Quand les premières bar mitzvah de nos grands garçons, il n'y avait pas quelqu'un qui joue de la musique. On a rajouté ça. Déjà, la bar mitzvah de Hillel. On a rentré un peu à un standing un peu plus complexe, si vous voulez, plus complexe. Paf ! On est dans le shtetl. Donc, il y a une Géoula quelque part. Il y a un copain qui m'a dit que là, il ne peut pas travailler. Et il ne peut pas travailler. Son métier est un métier où il doit être présent aux gens. Il ne peut pas travailler. Il m'a dit, il a un goût du jardin d'Éden, où il n'y avait pas la malédiction, tu à la sueur de ton front, tu vas travailler. Il m'a dit, il ne sait pas combien de jours il va tenir comme ça. Mais en attendant, il a un goût du jardin d'Éden. Donc, il y a une délivrance. Et dans cette délivrance, il y a des gens qui meurent. C'est terrible. Il y a des gens qui meurent, des gens qu'on connaît même. Là, la sortie d'Égypte, c'était pas peace and love. Hein. On voit là, hein. Ce midrash, il est terrible. Atem shochatim apsachim, Dieu dit, vous égorgez le Pessah et moi, j'égorge les premiers-nés. Aotsa dirtiv. Alors, donc ça, première chose, l'asservissement, les herbes amères. La justice sur les Égyptiens, c'est le Korban Pessah. Et la sortie d'Égypte, qui est le troisième élément de la promesse de Dieu à Abraham, quand il dit Vareken Yetsu Birkush Gadol, après ils sortiront avec les grandes richesses, Aremez Alav Amatzah. C'est la matzah shayu ochnim balayla shamatza izecher lacheru. Donc ici, il rapporte une preuve. Il rapporte une preuve qu'il y a trois éléments qui correspondent aux trois volets de la prophétie qu'a reçue Abraham. Or, si tu dis que le pain pauvre que mangeaient nos pères en terre d'Égypte représente l'asservissement, et dit tu ne rends pas compte du tout pourquoi ils avaient ces trois mitzvot à faire. Tu n'as rien expliqué. Donc ça, c'est une preuve formelle contre Avraham Banel. Le Ficar, si va la sot elouche shoshad varim balayla azé, c'est pour ça qu'il a ordonné de faire ces trois choses cette nuit-là. Donc là, c'est une preuve formelle. Hein. Kilouche shoshad varim tchuluyim zebazé. Ces trois choses dépendent l'une de l'autre. Kimetzav shayou meshubadi bimitzram vayou beavdoud gador raou shayou nigalim. Ces trois choses dépendent l'une de l'autre. Du fait qu'ils étaient asservis en Égypte et qu'ils étaient dans un asservissement puissant, il est légitime qu'ils soient libérés. Omi sheshabed otam raou leonesh. Et celui qui les a servis, il est légitime qu'ils reçoivent un châtiment. Regardez, cette phrase-là, je ne la comprends pas. Car ces trois choses dépendent l'une de l'autre. Le fait qu'ils étaient asservis en Égypte et qu'ils étaient dans un asservissement puissant, il légitime alors qu'ils soient libérés. Non, tu as des gens, ils peuvent être esclaves tout le temps, pourquoi pas?
Oui, mais c'est la promesse qui a été faite à Abraham.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est interdépendant. Si vous n'avez pas un des éléments, vous ne pouvez pas avoir les autres. C'est parce qu'ils ont été esclaves en Égypte.
L'élément de l'équation, c'est l'Aftara d'Abraham, effectivement.
Parce qu'ils ont été esclaves en Égypte.
Mais ça, il vient le dire. Regardez cette phrase-là. Regardez, moi, j'ai un truc très bien, ça s'appelle le Tipex. Moi, j'enlève cette phrase-là, je mets du Tipex.
Non, il n'avait pas dit que c'était interdépendant, il avait parlé des trois éléments. Maintenant, il parle du kécher qu'il y a entre chacun de ces éléments.
Alors, qu'est-ce que tu as dit là?
Exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que c'est parce qu'ils ont été évêques à Vadim en Égypte qu'ils étaient raouille la Géoula. C'est parce que c'est la condition d'évêque qui fait qu'on peut atteindre la Géoula. C'est comme dans le passage de Michelet, Shefel Rouar je ne me rappelle plus exactement. Mais là-bas, l'idée, c'est que ça nous a abaissés en tant que web, et c'est peut-être ça qui nous permet d'accéder à la psychique.
C'est pas ça la question.
Si la libération, c'est
si, la Géoula, c'est ça.
D'une volonté extérieure, d'une volonté de Dieu. Alors, c'est l'expression d'une justice. Donc, il faut qu'à un moment donné, on voit que ceux qui sont asservis sont libérés et ceux qui ont opprimé souffrent. Dans ce moment-là, si c'est l'intervention d'une volonté extérieure, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit rétabli.
Ah, c'est Raoul et Onesh. C'est sur ça que le fait qu'ils soient punis, les Égyptiens.
Regardez, moi, j'écoute ce que vous dites, j'essaie de redire en d'autres mots. Lui veut dire, je reprends les différents éléments que vous avez dit, Yohanan et Damien. Je reprends. Prenons un exemple. On voit que si moi j'ai un esclave cananéen, ce qu'on appelle esclave cananéen, c'est un esclave non juif, et que je lui crève un œil ou que j'arrache une oreille, il sera à la liberté. C'est-à-dire, je peux avoir un esclave, à la limite, ça c'est dans l'ordre du monde, mais un esclavage qui sort de l'ordre de l'esclavage, mais d'une exploitation exagérée, il y a deux éléments que vous avez dit. D'abord, celui qui outrepasse c'est sa position de maître, il est raouille d'être châtié. Et celui qui subit un asservissement trop fort, il est légitime qu'il sorte à la liberté parce qu'on ne peut plus l'oppresser. L'oppression, il y a une limite. Mais le fait d'atteindre son intégrité, il sort à la liberté. C'est ça ce qu'il a l'air de dire. Que là, ils ont asservi, mais ils ont fait souffrir. Parce que asservir, c'est une chose. Mais ils ont fait souffrir. Ils ont fait, il dit, Avdoud Gadol. Donc, comme il y a un Avdoud Gadol, Raoui, chez Younegalim. Et celui qui est là de ce fait-là, celui qui les oppresse, là, il a outrepassé ses limites, il faut qu'il soit châtié. Donc, les trois sont liés.
Il n'y a pas d'expression de l'exagération dans la Sherboud quand il dit « ou Miché Charbet d'Otam Rahu de la Honège ». C'est-à-dire que la punition, elle est dans l'expression de l'esclavage pur, sans qu'il y ait d'exagération dans cet esclavage.
Oui, moi j'ai l'impression que si, parce qu'il dit, hein, ok, j'entends ce que tu dis, « Kimitsa Hashomo Shomo Demitsram Ayu Be'avdoud Gadol ».
Ouais.
« Avdoud Gadol ».
Ça fait beaucoup penser à la Gemara dans Ktuvot sur les serments. Que les nations. Le pas Yoter Medaï, dit la Gemara.
Pas Yoter Medaï. Mais là, voilà. Là, ça a été Yoter Medaï.
On dirait que dès que ça dépasse la mesure, c'est comme vous dites exactement. Quoi.
Là, c'est Yoter Medaï.
Et en même temps, c'est l'oppresseur qui prépare, celui qui l'a oppressé, l'oppressé à la Géoula. C'est quand même ce qu'on comprend aussi. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un oppresseur qui a oppressé Avdoud Gadol que l'oppressé, il est Raoul, Ishiye, Nigel.
Ouais.
Donc, ouais. Il y a quand même un côté un peu, comment dire, les Égyptiens, ils sont quand même dans une shlichut, enfin, c'est pas.
Oui, ben, oui, oui. On dit d'ailleurs, qu'il devait être asservi 400 ans, mais comme l'oppression a été terrible, ça s'est limité à 210. Il y a certaines explications. Omnan le Kaman, Etzel Pessa Matsan Baroy Ber O Ze Od Binyanachem, mais nous allons expliquer ça d'une autre manière. Omnam, Alkol Panim, quoi qu'il en soit, mais là, la Yetzia, la nuit de la sortie, Achlou Matsa, Mipne Shalyada Iknu Alechut. Ils ont mangé la Matsa, par son biais, ils acquièrent la libération. Ben Ramban tiret qui galou viadoua ou lifna makom sheyu yotzim beripazon velo itramet saïsa le kard siva kodem shetsu al mitzan matza. Ramban répond pourquoi il aura ordonné de manger la matza. Alors, la thèse de Maharal, c'est quoi? Pourquoi il aura donné avant, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, il leur dit dans deux semaines, vous allez manger de la matza. Pourquoi? Car la matza est l'accession à cette simplicité. C'est comme si on va te demander de manger des patates à l'eau. Ouais. Mais pourquoi pas des patates frites je ne sais pas quoi, ou de la purée. Non, des patates à l'eau. Mais pourquoi? Parce que tu manges quelque chose de simple, ça va t'initier à la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est la thèse du Maharal. Le Ramban, il dit non. Il dit pourquoi ils ont donné le premier Nissan? Car ils savaient qu'ils sortiraient avec précipitation. Il leur a donné quelque chose qui va cuire extrêmement rapidement parce qu'ils vont sortir tout de suite. Ils le savaient prophétiquement. Mais non, Dieu savait ça à l'avance. Yadoua lifna makom shuyotim bechipazon. C'était clair devant Dieu qu'ils sortiraient avec précipitation et que la panne n'aurait pas le temps de lever. C'est pourquoi avant il a dit faites des matzots puisque vous allez sortir en précipitation, ne sera pas le temps de lever.
Donc il y a un lechatrila là-dessus, c'est-à-dire que avant même qu'il sache ce qui allait se passer, il savait qu'il devait manger une matza à cause de ce qui allait, à cause de ce qui allait
passer. Ramban. Mais le Maharal, de manière générale, le Maharal, hein, quand on étudie du Maharal, trentaine d'années, 28 ans peut-être, on était, notre centre itinérant était rue Vieille du Temple. Tu as connu cette période, David?
Au-dessus de la librairie.
Au-dessus,
oui. Chez
Radash. Ouais. Au-dessus de la librairie. Et il y avait un grand Rav qui était passé, Rav Mordechai Elephant. Rav Mordechai Elephant qui était le fondateur des Yeshiva Itri. Bon, il est passé nous voir parce que Eric Fitoussi, qui était notre élève à l'époque, son père était proche de ce Rav Elephant, enfin peu importe. Et il nous a dit quelque chose de très intéressant en passant comme ça. Rav Elephant, il nous a dit que on peut étudier le Talmud de différentes manières. Il y a une démarche d'étude du Talmud qui est la démarche Maharal, et il y a une démarche d'étude du Talmud qui est Moré Nevochim. Le Maharal, c'est une analyse de concept, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une analyse de concept. Lui, il dit, la matza, c'est le concept de la sortie à la liberté. Le Ramban lui dit, non, c'est une vision prophétique à l'avance que Dieu savait que. Il dit, ok, d'accord, c'est bien ce que toi tu dis, mais ça ne m'intéresse pas. C'est la Torah, ce qu'elle nous dit, c'est la Torah, ce qu'elle nous dit, c'est la matza, c'est analytiquement l'accession à la liberté. Maintenant, ce que tu dis, Ramban, je ne m'oppose pas, mais de manière plus profonde, c'est ce qu'il dit. Parce que c'est bon à cette époque, c'est bon aussi à notre époque, c'est éternel. C'est pas conjoncturel, c'est éternel. Alors, c'est une démarche d'étude. Hein, c'est une démarche d'étude qu'on remarque ici, dans ce débat avec Nachmanide, je trouve. C'est très... et il avait dit que, par exemple, Rav Shimon Shkop, c'est une étude type Maharal. Il y en a, c'est d'autres manières d'aborder les choses. Avalika Rapirou, c'est ce qu'il dit ici. Le principal de l'explication. Ki mitzvan matza ibeatzma zerher lacherut. C'est fondamentalement mentionner la libération. Le fikar arlu matza balayla kodem shetsu. C'est pour ça qu'ils ont mangé la matza avant de sortir. Akadosh Boko Tsian Bechipazon, Shelo, et Dieu les a fait sortir précipitation. Shelo Yarlulit Mapea Minata, Machian Ibervi, Chokman Ifla, et par ce biais, Dieu les a fait sortir précipitamment, car ils n'ont pas pu tarder pour la raison que nous avons expliquée plus haut. Ça, c'est une Chokma extraordinaire. Nifla, ça veut dire, c'est une analyse supérieure, ce qu'il dit, ce n'est pas une analyse conjoncturelle, mais supérieure. Donc pourquoi c'est Nifla? Parce que c'est le fait de manger la matzah, ça remèze sur ce qui va se passer, c'est-à-dire l'émission d'un monde simple, comme la matzah qui est simple. Veod il bayer lecha davar ze bema matzah zo, nous nous expliquerons aussi plus tard. Vechen raouliot osse kolinya da matzah kedere rani, c'est pour ça qu'on doit se comporter comme le hani, avec une proussa et pas avec un pain entier. Continuons. Amrou. Amrou zichonam livrara beperek arve psachim. Nos maîtres ont dit dans le chapitre arve psachim, dixième chapitre de traité Psachim, Daf Kuf Tetzay. Lechem Oni, qu'est-ce que c'est le pain Oni? Alors, dans la Torah, c'est écrit Lechem Oni Ain, Nun Yud, avec un cholam. Ça se prononce Oni, mais ça s'écrit Ani. Lechem Oni, première explication. Shioni Malav de Vari Marbe. C'est un pain pauvre sur lequel on parle beaucoup de choses. D'abord, Rachel, autre explication. Les rémonies. Madarko, shelani, beproussa, afkam, beproussa. De la même manière que le pauvre, il mange un quignon, un morceau, là aussi, on mange un morceau. Pirouche. Afalgab, shepcha, takatoub, shetikare, matza, les rémonies. Bien que le sens simple du verset qu'elle s'appelle matza, pain pauvre, parce qu'elle est dénuée de tout le vin, elle n'a rien, seulement elle-même, comme il a défini plus haut. Pourquoi la question de nos maîtres dans le texte, pourquoi t'es obligé de dire un pain pauvre. Pshita, de Yadina, Shkol Matzah, Shel Baseor, Shel Anya. Il n'y avait qu'à dire, qu'est-ce que c'est la matzah? Matzah, eau, farine, point, et minimum de temps. Il n'y a pas le levain. Ça, on le sait. Pourquoi tu la décris? On sait qu'elle est pauvre, puisqu'il y a le minimum. Pourquoi tu es obligé d'un pain pauvre? Et là, le cas qui est-il, Echon, Ilomar, Shoni, malade, varim, arbe, parce qu'on parle dessus plein de choses. Pirouche. Shamatsa mitfarsem aliyada yetsiad mitzrayim. Par la matza se promulgue la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, ce pain, ce n'est pas simplement un pain qu'on mange comme ça.
C'est le vecteur. Et
comment?
C'est un vecteur. C'est un vecteur de toute l'explication. Et de tout.
Voilà. Voilà. C'est un support. C'est un support de quelque chose. Ça ne se limite pas par le fait, voilà, on mange. On mange le matz, comme on dit chez nous. On mange le matz. Ouais. C'est un vecteur de promulguer la sortie d'Égypte. Maintenant, on ne pose pas la question, mais Matsa ou Maror aussi, on doit parler. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, Yod Yatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Pessa, Matsa, Maror. Donc le reste aussi, il faut parler. Pessarzo, Marorze, Enzekashia. Non. La sortie d'Égypte et toute la Gada, on la raconte sur le pain. Le fils Alechem, ma guide, regardez, je ressens, parce que la pshitout, parce que on sait que en Égypte, on dit Adibour Aya Begalout. La parole était en exil. Il n'y avait pas de parole. Mais pour qu'il y ait une parole, on sait aussi que les Rachamim nous disent Pessar, la bouche parle. Pessar, la bouche parle. La sortie d'Égypte, c'est la capacité de parler. Et c'est ce qui est développé plus loin dans la Haggadah, Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah, elle parle par rapport à quatre enfants. Donc la Yetzia est la capacité maintenant de parler. On disait tout à l'heure que on est dans un monde de la Arkava.
Complexité.
La complexité. Oui. Par exemple, il y a un rabbin, vous savez, il y a les blagues. Il y a un rabbin libéral, un rabbin conservatif, un rabbin orthodoxe. Vous connaissez? Alors, non, rabbin libéral, rabbin consistorial, rabbin orthodoxe. Oui. Alors, chacun, comment il va parler? Il a son langage. Voilà. Donc, ça, c'est pas une parole. C'est un blabla. On sait déjà qu'est-ce qu'il va dire. Je sais pas, moi, en tant que Rosh Yeshiva, je dois vous encourager à étudier la Torah, évidemment. Je ne vais pas vous encourager à faire autre chose. C'est normal. C'est mon positionnement, c'est d'encourager les gens à étudier la Torah. C'est normal. C'est un positionnement, mais ce n'est pas une parole. Une parole, c'est que quelqu'un, il a quelque chose à dire. Mais est-ce qu'on a quelque chose à dire? Silence. Est-ce qu'on a quelque chose à dire?
Je ne vois pas pourquoi le fait que vous êtes positionné, qu'une personne est positionnée, que son positionnement atténue sa parole. Je ne comprends pas, je vois ce que vous voulez dire comme ça, mais en réalité, ça atténue en rien sa parole, ça peut même la renforcer. C'est-à-dire que c'est parce, évidemment, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de ridouche parce que vous êtes voilà. Attendu là-bas. Voilà. Mais en même temps, si vous
ne le faites pas… Ce n'est pas une parole. Si vous ne le faites pas. Une parole, c'est qu'il y a une différence entre après et avant.
Ah ben c'est l'impact que l'émetteur laisse sur ceux qui reçoivent la parole. Alors, c'est que le Rosh Yeshiva qui dit « Vous devez étudier la Torah » et que cette parole-là, elle n'est pas
reçue. Mais il se tairait, j'ai qu'à faire dodo, je lui donne la parole, je sais déjà qu'il va dire qu'il faut étudier la Torah.
C'est le principe du débat aujourd'hui, si je puis me permettre. C'est le grand problème du débat de manière universelle. C'est que chacun vient avec son positionnement respectif et opposé l'un à l'autre. Et chacun vient dire ce qu'il a à dire, mais n'entend jamais ce que l'autre a à dire. Si jamais chacun entendait l'autre, c'est là que la parole commence à trouver son existence et à faire évoluer la position de l'opposé. Donc, et je comprends très bien ce que dit le Rav Zizek. C'est que effectivement, quand on arrive avec un positionnement établi, la parole n'est qu'un pléonasme par rapport à ce positionnement établi. Ce n'est qu'une répétition évidente et naturelle et logique et anticipable et qu'elle n'amène rien de nouveau. Une parole, c'est quelque chose qui a permis de faire évoluer à la fois l'émetteur et à la fois le récepteur, auquel cas elle n'a rien apporté. quand vous venez écouter quelqu'un de, quand un mec du de, politiquement un mec de gauche, il vient écouter un mec de gauche, il y a aucune parole qui va évoluer, qui va le faire évoluer. Il est venu, il sait exactement ce qui va se passer.
Voilà. T'achètes un journal. Un journal, t'as le Figaro, tu sais déjà que le Figaro, qu'est-ce qu'il va dire. Tu le Monde, tu sais déjà qu'est-ce qu'il va dire.
Exactement.
Chacun a son positionnement. Là, sur Internet, tu as plusieurs trucs. Tu as Léa Var, tu sais qu'est-ce que tu vas voir. Tu as Ron Chaya, tu as Dinovitch, tu as Zizek, tu as machin. C'est le commerce. Chacun est là avec son truc. Mais une parole, c'est pas ça. Ariel, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu dis.
Non, mais c'est intéressant.
Non, toi, tu dis que ça commence déjà par écouter l'autre. Mais si l'autre lui-même, il est lui-même dans un positionnement, j'ai rien à écouter.
Non, mais c'est justement, je commence à démontrer que j'écoute l'autre quand il est dans un positionnement opposé au mien et qui va me faire évoluer par rapport à mon positionnement et de l'amener vers lui. Là, Serret à Tibrat, je suis désolé. Là,
c'est le sujet, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui va amener la Géoula, on sait, Loïch de Varim Anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Il y a des gens, ils ont du mal à parler. Moi, j'avais un ami qui est décédé maintenant, qui m'était extrêmement cher, mon ami Jacques Attali à la Vachalom. Il m'a beaucoup aidé, je t'ai raconté ça, Ariel.
Ouais.
Il m'a beaucoup aidé au niveau de la conception du Beit HaMidrash, etc. Mais au niveau humain, quand on cooptait des gens dans l'association pour s'occuper de l'association, quand il y avait quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, il m'a dit « Regarde ce type-là, il est super. »
Parce qu'il ne parlait pas.
Il ne parlait pas. Ce type, il est super. Tu as des gens, ils ont du mal à dire des choses. Ils ont du mal à dire des choses. Pourquoi ? Alors, le Maharal explique sur Moshe Rabbeinu. Parce que pour lui, les choses étaient tellement vécues qu'il avait du mal à les dire. Ça, c'est un truisme de dire. Tu as des gens, par exemple, ils ont vécu des traumatismes. Ils ne peuvent pas en parler. Pourquoi ? Parce que c'est trop profond chez eux. Ils n'ont pas les mots pour le dire. Quelqu'un, il a vécu quelque chose de lourd dans sa vie, il ne peut pas en parler. Pour parler, il faut une distance. Mais quelqu'un qui vit les choses a du mal à dire les choses. Or, quand une parole, c'est quoi ? Une parole, c'est que ce que je vais dire, ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. Si j'ai quelque chose à dire, ça veut dire... Ça n'a jamais été dit. C'est pour ça que Dibour, c'est un lachon dur. C'est dur, parce que ça engage. Il y a des gens, ils vivent, Moshe Rabbeinu, dit le Maharal de Prague, ils vivaient intensément les choses, ils ne pouvaient pas les dire. Ils n'arrivaient pas à trouver les mots. Ou alors, il fallait... une disponibilité pour qu'il puisse parler. C'est ça la disponibilité, pour pouvoir dire des choses. Il faut une disponibilité. Il faut cette disponibilité, c'est une Géoula. C'est une Géoula. Si on est dépendant de quelque chose, on n'est pas disponible pour qu'il y ait une parole. C'est pour ça la Matzah. La matza, c'est sur elle qu'on parle. C'est ça ce que le Maharal vient nous dire.
Anonyme.
C'est comme tu as des gens, ils ne parlent pas beaucoup. Vous avez remarqué, mais je sens que tu veux me dire quelque chose, mais pourquoi tu ne me le dis pas ? Tu as quelque chose à me dire, mais dis-le moi. Si, dans les relations humaines, souvent c'est comme ça. Je sens que tu veux me dire quelque chose, mais tu ne me le dis pas. Après, la personne, elle le dit, on ne l'écoute pas. Il y a des gens, vous savez, c'est très très connu ça, les rescapés de la Shoah. Je leur dis, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Pourquoi vous avez attendu 50 ans, 60 ans pour en parler? Je leur dis, mais tout de suite on a parlé. Mais les gens, ils ne nous écoutaient pas, c'était tellement invraisemblable, impossible d'imaginer, que les gens nous coupaient la parole. Donc on ne parlait pas. Une parole, c'est quelque chose qui n'a encore pas été dit jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai quelque chose à dire, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai à dire. Mais si moi je dis quelque chose que j'ai à dire, tu ne vas pas le supporter parce que tu n'es pas habitué. Donc tu vas me couper la parole. Tu vas dire non, c'est nul. Non, non, non. C'est ça, le dibour était en galoute. Alors la matzah, c'est pour ça que c'est sur elle qu'on parle, parce que cette disponibilité, ça c'est la Géoula, c'est la matzah qui représente cette sortie à la liberté. Là, on peut commencer à parler.
C'est la parole libérée, mais bon, c'est justement, c'est la parole libérée. Non?
Bon, t'en fais un slogan, mais...
Mais, ouais.
Libre parole. Mais si on voit dans le quotidien, la libre parole, c'est dur. C'est encore du médiatique, la libre parole. Antenne libre, ouais. Vous pouvez dire n'importe quoi. En général, c'est quoi? Antenne libre. Non, c'est pas... Ouais. Entre minuit et 1h du matin, antenne libre. Alors bon, il y a eu comme ça dans les radios des trucs. C'est aussi un positif. Alors tu peux dire n'importe quoi. Ouais, finalement, Front National, il a raison. Ouais, vous avez raison. Ouais, il faut s'exprimer. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais là, c'est encore des schémas. Là on n'a rien dit. Mais. C'est pour ça que Keneged Arba Banim, que là, le... Bon, ça, ok. Alors, regardez, parce que là, il y a l'étude de Gemara qui va commencer. Je pense qu'on va arrêter là pour le moment. Hein? Je reprends ce petit passage. Pourquoi c'est par rapport à la matzah spécifiquement? Enze kasha, ki etzian mitzrayim v'chol agada yseper el alechem. Car la sortie d'Égypte et toute la Gada, c'est sur le pain. Le fish alechem magil lecha yetziat, parce que le pain exprime la sortie. Lo apesah sheno yetziarak c'est pas ça que le Bochou al bateis ben Israël va maro etrayim ba vola kasha. Aval la matzah yetzia. Donc là, il est toujours dans sa thèse. Que la matzah, c'est la yetzia, c'est pour ça qu'on parle. On parle, c'est l'expression de la sortie. On parle de la sortie d'Égypte, pas le Pessah, qui est le jugement, le châtiment des Égyptiens, et le Maror, c'est l'asservissement. Voilà, mes amis. Donc ici, me semble-t-il qu'il y a un point très très important, c'est la parole qui vient sur la sortie d'Égypte. Que la capacité de parler et qu'est-ce que ça veut dire dire quelque chose? Dire quelque chose, ça veut dire que avant qu'il parle et après, il y a un changement complet. C'est une parole, c'est quelque chose qui est inouï. J'ai pensé à ça ce matin, il y a un Rashi sublime dans le premier pasouk de Parashat Bo Yudbet. Je prends le pasouk.
Une seconde.
Chapitre Yudbet, pasouk Aleph dans Shemot. Vayomer Hashem El Moshe Vel Aaron Bered Mitzrayim Lemor Achodesh Aze Lachem. Hashem a parlé à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant « Ce renouveau du mois sera pour vous. » Donc, toute la sortie d'Égypte commence par ce verset. Rachid dit « Pourquoi là Hashem parle à Moshe et à Aaron ?» Bon, à Moshe, c'est normal, mais pourquoi à Aaron ? Pourquoi Aaron ? Parce que plus haut, au début de Shemot, quand Hachem a dit à Moshe d'aller voir Pharaon, il a dit, toi, ton frère, vous allez voir Pharaon avec tous les notables d'Israël, les Zikné Israël. Moshe est allé voir les Zikné Israël, ils ont dit d'accord. Et finalement, ils partent tous, ils se retrouvent que Moshe a Aaron devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Qu'ils ont eu la pétoche d'affronter Pharaon. Ils se sont tous défilés. Ils ont dit, oh, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ils ont dit, oh là là, je ne peux pas.
Je ne peux pas, j'ai confinement.
Comment je ne peux pas, j'ai confinement. Voilà. Alors, ils se sont défilés. Finalement, n'arrivèrent devant Pharaon que Moshe et Aaron. Rachid dit, c'est le fait qu'il n'y a eu que Moshe et Aaron qui ont eu le cran d'affronter Pharaon, et les autres se sont défilés, que lorsque Hachem va parler, il ne va parler qu'à Moshe et Aaron. Il me semble que c'est le même sujet. Hachem, il a quelque chose à dire. Mais est-ce que nous, on est prêt à écouter ce qu'Hachem il est prêt à dire. Rachid nous dit, si on est dans la pression politique, ça veut dire, on a peur de froisser l'autorité qui s'appelle Pharaon, on ne peut pas, ça veut dire, on n'est pas prêt à écouter quelque chose. Parce que toute parole, elle dérange. Une parole dérange. Si une parole ne dérange pas, c'est que ce n'est pas une parole, c'est un positionnement, ce n'est pas une parole. Et me semble-t-il que ça, c'est un drame. Il y a un de mes fils qui habite en Israël, m'a dit, il y a en Israël, il y a un très grand drame, très grand drame. Il n'y a pas qu'en Israël qu'il y a des drames, il y a un grand drame. C'est que là-bas, il y a un positionnement, il y a le positionnement. Être religieux, c'est politique en Israël. C'est un positionnement. Tu te rends dans un positionnement. T'es Agudat Israël, tu es Shmuel Yorbar, tu es Kippa comme ci, tu es comme ça. On n'est que des positionnements. Une parole, c'est quelque chose qui n'a encore pas été dit jusqu'à maintenant. Hachem, il veut dire quelque chose. Mais est-ce que nous, on est capable d'écouter ? Alors, c'est ce que dit Rashi. Eux qui ont eu la force intérieure d'affronter Pharaon et d'être critiqués par Pharaon, évidemment. Les autres, ils disent, non, on ne veut pas froisser, Hachem ne peut pas s'adresser à eux. Ok, on s'arrête là-dessus. Suite au prochain numéro, maintenant il y a l'étude de Gemara. Salut les copains qui viennent pour l'étude de Gemara là.
Bonne journée.
Ouais, salut. Je t'avoue à toi, bonne santé les amis. Ah. Ah. Ah.